Tirage difficile. J'ai eu un tirage difficile. Les premiers mots prononcés à la prise d'antenne sont, je pense, les plus compliqués. Alors bien sûr, on pourrait commencer par un simple bonsoir, chers auditeurs. Quelque chose de limpide, de simple, d'efficace, mais un peu terne. Mais non, 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 je ne mange pas de ce pain-là. Il faut quelque chose qui claque, comme dirait l'autre. Une marque de fabrique, un tampon estampillé, attention, talent pur. Le truc qui fasse marrer dans les postes cafés des cadres Michelin, qui leur fasse palpiter la petite chose qui se trouve sous leur badge et leur costume mal taillé. Bref, qui les touche en plein cœur. Exercice complexe, vous en conviendrez. Tirage difficile encore. Victor, fais-nous un billet d'humeur. Un billet d'humeur, un billet d'humeur. Peu à peu, les mots prennent un sens. Je sens l'excitation venir en moi, un afflux sanguin chargé d'énergie, d'idées brillantes ne faisant qu'un tour dans mon corps, pour venir se nicher juste ici, dans mon cortex cérébral. Un feu d'artifice, d'arguments lumineux, stocké dans ma tête, la pression de mon érudition. Ça y est, je comprends. Oui, je suis doctorant et pour la première fois de ma vie, avec ce billet d'humeur, je vais pouvoir l'ouvrir, parler librement, vous faire comprendre à vous, bande de misérables bac plus 5, l'étendue de ma science et le pouvoir de mes mots. Je me jette sur mon encrier Apple, saisis ma plume et je n'écris rien. Je n'écris rien car je me demande en réalité qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire un billet d'humeur. En effet, à l'heure de la sacro-sainte communication virtuelle, comment apporter sa pierre à l'édifice d'une réflexion commune? Les tweets, les likes sont-ils aujourd'hui ce que furent les pamphlets et les éditos d'hier? Notre génération, dite Y, n'est-elle condamnée qu'à ne s'écouter parler elle-même ou à n'écouter ce que ses friends ont à lui dire? Non, non, je sens déjà la main de mes amis doctorants me frapper derrière la nuque d'un coup sec, me dire « Victor, arrête tes conneries, t'as 27 ans, c'est un peu tôt pour être réac ». Alors je me retourne vers l'un d'entre eux, je choisis le plus chétif, je lui retourne sa gifle et je lui demande « Mais de quoi doit-on parler pour faire un bon billet d'humeur ?» Il faut parler de sujets chocs, qu'il me dit. Je lui en mets une pour la forme, je réfléchis et je me lance. La France, celle des valeurs, des vertus, perd peu à peu cette sève qui coule en elle et qui constituait jadis le terrain de son identité. Oui, non, alors en plus d'être totalement con, c'est complètement faux. Je me retourne alors vers mes amis qui me regardent d'un air grave. Je leur demande de m'excuser, explique que j'ai pris le café devant la télé ce matin. Allez Victor, pense à tes contemporains, fais de l'humour politique, ça marche bien. Est-ce que vous saviez que Marion Maréchal Le Pen n'a que 2 livres dans sa bibliothèque et qu'elle n'a toujours pas fini de colorier le premier? Ok, c'est pas terrible. Je commence à paniquer, j'ai du mal à respirer. Il me reste quelques secondes pour justifier ma prise de parole, affirmer ma position. Merde, ça fait longtemps que j'ai eu mon Master 2, moi. Il faut que je dise quelque chose de brillant. Mais finalement, sur quelques points, je suis peut-être en train de réussir mon exercice. J'ai brassé autant de mots que de vent, suggéré des idées sans jamais creuser l'une d'entre elles, respecté un délai de parole prohibitif de toute pensée construite. J'ai usé de la familiarité pour vous faire croire qu'à travers moi, c'est bien vous qui parliez. J'ai ainsi flatté chez certains des convictions, vexé d'autres par des raccourcis, et c'est bien là le but de la manœuvre. En effet, il me semble qu'aujourd'hui, le billet d'humeur ne soit que l'apparat du bavardage. Le bavardage qui n'est pas une tare en soi, nous avons tous plaisir à parler de tout et de rien. Mais nous avons aussi besoin de discuter, de donner un sens à nos paroles et les nourrir d'idées nouvelles. Mais depuis quelques années, il me semble que nous ne discutons plus. Nous bavardons sur les mêmes sujets imposés, ceux ayant attrait à l'identité, à l'immigration, nos valeurs perdues, à la croissance de l'économie. Autant de dissertations sur lesquelles nous planchons, animant les débats entre amis, les repas de famille, mais surtout nourrissant la scène médiatique, celle justement où se nourrissent les billets d'humeur. Mais si ces sujets n'étaient-ils pas tout simplement des cases dans lesquelles il nous est obligé de réfléchir? Des boîtes fermées qui nous donnent l'impression d'avancer alors que nous sommes en train de longer inlassablement leurs parois. En somme, faire un bon billet d'humeur reviendrait à ne vous dire que ce que vous connaissez déjà. Le problème est que cela s'oppose à ce que nous aspirons tous, ici autour de cette table, composée de jeunes chercheurs. Rappelons-nous qu'au siècle dernier, nous médiatisions nos intellectuels et qu'aujourd'hui, nous avons des intellectuels médiatiques. Et c'est peut-être ici, et j'en terminerai par ces mots, que se trouve la clé d'un bon billet d'humeur.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes sur Radio Campus au 93.3 pour l'émission Quoi de neuf doc, l'émission de Doc Tauvergne. Et l'émission vient de commencer par le billet d'humeur dans la tête d'un doc réalisé par Victor Valentini, doctorant en sciences politiques à l'UdeA. Après cette belle entrée en matière, au sommaire d'aujourd'hui, un focus actu sur le thème de l'immigration, pour lequel je suis ravie d'accueillir Lauriane Alézard, doctorante en droit public à l'Université d'Auvergne. Ensuite, Alice Julier, doctorante en droit privé à l'UDA, consacrera sa chronique « Société en marche au revenu universel ». Puis nous retrouverons le traditionnel « 8 minutes avec » où Arthur Chassagnol, doctorant en mathématiques à l'Université Blaise Pascal, interviewera Clément Matona, doctorant en économie à l'UDA, afin qu'il nous présente son parcours et ses recherches. Enfin, Nicolas Duraca poursuivra sa présentation de l'Utopie avec la chronique « Fait de beau rêve doc » consacrée aujourd'hui à Jean-Baptiste Gaudin. Pour cette émission, et comme toujours, nous accompagne à la technique Claire Valente et Yann Jauré, à qui on fait un petit coucou. Merci à tous d'être présents, et puis sans plus tarder, je vous propose de passer au Focus Actu.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs voient l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
C'est Focus Actu.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Je viens de vous l'annoncer, et en plus Victor y a fait référence, le Focus Actu du jour porte sur un sujet d'actualité plus que débattu, souvent utilisé par les politiques, mais surtout trop souvent détourné et caricaturé, il s'agit de l'immigration et de l'intégration. Alors que selon un récent sondage de l'Ipsos, 53% des Français seraient contre l'accueil des migrants arrivant sur la côte méditerranéenne, tendance qui s'était brièvement inversée après la diffusion de la photo du jeune réfugié syrien retrouvé mort sur une plage turque, une explication des politiques françaises et européennes mal connues, pour ne pas dire méconnues, semblait plus que pertinente. Pour cela, et afin de débattre de la question, j'accueille Lauriane Alézard, doctorante en droit public à l'Université d'Auvergne. Elle travaille sur l'identité par la Constitution et va donc pouvoir nous faire partager sa connaissance sur les différents types de politiques existant en matière d'immigration et d'intégration, politique bien souvent liée à l'histoire d'un pays et d'une nation. Bonsoir Lauriane.
Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Donc,
est-ce que tu te sens de débattre sur l'immigration et l'intégration ?
Eh bien, on va essayer.
Alors, pour commencer, peut-être que tu pourrais nous expliquer la particularité du système français en la matière, pourquoi pas en comparant avec certains des voisins européens.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a une longue tradition en matière d'immigration, puisque c'est une terre d'immigration depuis le 19e siècle, et ce, jusqu'à facilement les années 70. C'était plutôt quelque chose en France qui était valorisé, puisque quand on avait besoin de main-d'œuvre, on faisait appel à la main-d'œuvre étrangère. Donc contrairement à ses voisins européens comme l'Italie, l'Espagne principalement, sont des pays qui ont été davantage des terres d'émigration. Donc la France a toujours eu une culture de l'accueil quand elle en avait besoin et d'un accueil spécifique qui est celui de la main-d'œuvre étrangère. Ensuite, dans les années 50, on a eu une vague d'immigration de main-d'œuvre étrangère assez importante et on a supposé, encore une fois, que cette main-d'œuvre, elle allait s'en aller, que quand le travail allait être fait, la main-d'œuvre allait partir et il n'y aurait pas besoin de penser à l'intégrer. Or, ça a été tout le contraire. Et on s'est rendu compte dans les années 80 que le travail d'intégration qui aurait pu se faire spontanément n'avait pas été fait. De ce fait, on s'est confronté à un problème, le problème migratoire, qui n'avait jamais été un réel problème en France. Aujourd'hui, donc, se pose la question de l'intégration. Et l'intégration... l'intégration nécessite des politiques. Et en France, pour parler d'intégration, on est obligé de parler aussi de l'identité française. Car l'immigration, si elle pose question aujourd'hui, c'est aussi du fait de l'impact qu'elle a sur l'identité de chaque pays. Et en France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité française repose avant tout sur des critères d'appartenance à la nation, qui sont des critères totalement subjectifs, qui reposent sur une adhésion à des valeurs communes, à des valeurs républicaines, à des principes à prétention universelle qui sont induits, qui sont... explicitement inscrits au sein, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, en France, en plus, on a cette obligation pour intégrer le pays, d'intégrer les normes, les valeurs qui sont spécifiquement françaises, mais d'abord universelles. Et de ce fait... on a été longtemps, jusque dans les années 80, dans le déni des différences, dans le déni de la particularité de l'immigré et donc de l'acceptation de sa possibilité de vivre ces différences. Donc, on a été confronté à un paradoxe entre conserver l'identité de chaque et en même temps promouvoir une identité commune, une identité reposant sur des valeurs à prétention universelle. Et aujourd'hui, c'est un débat qui se retrouve encore. C'est-à-dire que quand on est, quand on parle du débat autour de la laïcité, on a des tenants de d'une laïcité qui prendrait en compte toutes les différences, qui valoriserait toutes les différences, et les tenants d'une laïcité qui, au contraire, serait dans le déni des différences et qui, au contraire, au nom des valeurs républicaines, voudrait une certaine homogénéité de la société, mais une homogénéité de fait. Donc voilà, la France aujourd'hui est confrontée à ce problème qui n'est pas visible par exemple en Allemagne, puisque l'Allemagne, elle, n'a pas une identité, une conception de sa nation qui est correspondante à celle de la France. L'Allemagne a longtemps eu un déni de l'immigrant, c'est-à-dire que jusqu'en dans les années 90, elle considérait que tous les immigrés, de fait, étaient des immigrés temporaires. Mais l'immigration s'est transformée en une immigration qui a été perpétuelle au final. Donc dans les années 90, on a pris conscience de ça et on a pris conscience du fait qu'il y avait des différences en Allemagne, des différences de chaque immigré, et on a essayé de les prendre en considération. De ce fait, il y a eu une certaine intégration qui a été réussie. Pourquoi ? Parce que l'identité allemande ne repose pas sur des critères comme en France, où on a une certaine obligation morale d'adhérer à des valeurs autres.
Voilà. Donc d'après toi, si en France il y a 50% de la population qui est contre l'immigration aujourd'hui, c'est plutôt lié au problème d'intégration des premiers migrants français.
C'est ça, c'est que... À mon avis, c'est déjà lié au fait que des Français ont peur de perdre une certaine identité, une identité qui est déjà complètement subjective et complètement floue, et le fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'une intégration qui a été ratée dans les années 80, du fait justement du déni des différences et du déni de la volonté de ces immigrés de garder une part d'eux-mêmes.
Alors est-ce que finalement c'est pas la politique d'assimilation plutôt que d'intégration mise en place en France qui a été un raté ?
Alors totalement, c'est que la politique d'immigration en France a toujours été dans le déni de dire on fait une politique d'assimilation, mais le fait de forcer en quelque sorte, pas volontairement, mais d'induire forcément une obligation pour les immigrés d'adhérer aux valeurs et d'oublier leurs différences pour justement respecter ces valeurs d'égalité, de liberté, etc., a fait qu'effectivement, on était plus dans une tendance assimilatrice qu'une tendance intégratrice. Quand on a pris conscience de ça, donc dans les années 80, on a essayé de régler le problème en adoptant des politiques antidiscriminatoires. On a essayé de permettre justement une vie plus intégrée pour les immigrés, mais c'est pas pour autant qu'on a changé notre conception de ce que devait être la nation française et les personnes intégrées dans la nation française. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour être intégré dans la nation française, il y a d'abord une intégration qui serait culturelle et pour accéder à des droits politiques. Alors qu'en Allemagne, on serait plus, par exemple, dans une intégration qui serait plus politique et avec une identité culturelle qui serait préservée.
D'accord. Et du coup, on entend pas mal parler effectivement de la France et de l'Allemagne. Enfin, nous, évidemment, on comprend les problèmes ou on voit les problèmes d'intégration qu'on a. Par contre, on a beaucoup entendu parler de pays comme la Hongrie qui ont fait beaucoup de freins, enfin qui ont mis beaucoup de freins à l'accueil de migrants notamment. Est-ce que tu as une idée de comment ils conçoivent les choses justement ?
Alors justement, en Hongrie, c'est un problème qui est particulier mais qui est aussi propre à chaque pays d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire que c'est des nouvelles démocraties qui n'ont pas une tradition d'immigration qui est très très importante, même si en Hongrie il y a eu beaucoup d'immigration, mais d'immigration de populations qui étaient plutôt homogènes et qui ressemblaient plutôt à la population hongroise. Ce qu'il faut savoir de la Hongrie, c'est que depuis en 1920, elle a perdu un tiers de son territoire. Elle a perdu plus d'un tiers de sa population. Donc la Hongrie est quand même une terre d'accueil, mais une terre d'accueil pour les personnes qui ressemblent à leur culture. Donc ce qu'il faut aussi savoir sur la Hongrie, c'est que c'est un pays qui a été dominé pendant des décennies, qui n'a pas connu de démocratie réelle et qui a voulu ces derniers temps se reconstruire sous la figure de Viktor Orban. Et Et en 2012 a été adoptée une nouvelle constitution qui avait pour but d'unir la nation, de créer en fait une nouvelle Hongrie et de permettre justement de permettre un peuple fort et un peuple qui se ressemblerait, qui pourrait s'identifier à la Hongrie. Donc l'accueil des migrants qui est compliqué aujourd'hui, c'est aussi la continuité de la politique de Viktor Orban. C'est-à-dire que c'est des migrants qui viennent de pays différents, culturellement différents, qui ont une religion différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Hongrie, dans la Constitution, sont consacrées les valeurs chrétiennes, sont consacrées des valeurs qui sont quand même très objectives, qui sont très, très exclusives. Et de ce fait, le migrant qui est trop différent risquerait de nuire, en quelque sorte, à cette unité, selon Viktor Orban. Donc, en fait, le fait de rejeter ces migrants, de rejeter cette différence, est aussi un prétexte pour Viktor Orban, à mon avis, pour réunir son peuple face à l'altérité.
D'accord. Et du coup, je connais pas grand-chose, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'amalgame qui est fait entre un problème d'intégration qu'on a effectivement depuis longtemps, et là, très récemment, on a plutôt un problème d'accueil, et on n'est pas encore au stade, à mon avis, de l'intégration ?
Alors, tout à fait. Mais le premier stade, à mon avis, de l'intégration, c'est d'abord l'accueil. C'est d'abord, est-ce qu'on accueille ou est-ce qu'on n'accueille pas ? Et les critères, justement, de l'accueil vont être précisés en fonction de ce qu'on va voir plus tard, de comment, une fois qu'on a accueilli le migrant, qu'on lui a donné un statut quelconque, juridique, comment, après, on va concevoir son intégration et son rôle dans la société. Est-ce qu'on va lui donner un rôle dans la société ?
D'accord.
Oui. Le temps que j'attrape le micro, moi, je me pose vraiment une question dans tout ce débat. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on est en train de réfléchir à quelque chose qui considère la question de l'immigration comme une question récente, et on est en train de se dire, et les politiques sont rois pour ça, on va poser un patch. Alors on accueille pas, qu'est-ce qu'on fait de l'immigration ? On va poser un patch quoi qu'il arrive. Et on se pose pas la question de pourquoi on en est là aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui, quand on voit les images, les photos, le flot d'immigration incroyable qui existe depuis longtemps, hein, mais qui est amplifié aujourd'hui, à aucun moment, on a un débat sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Et ça, moi, je me questionne, je me dis pourquoi, aujourd'hui, en France, on n'arrive pas à se poser la question de quelle est notre responsabilité, à tous, de cette situation-là. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une réponse à ça ?
Déjà, je pense qu'on ne se pose pas la responsabilité chacun, parce que je pense que la responsabilité de chacun est peut-être infime dans la responsabilité de tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi forcément chacun pour ce qui se passe en Syrie et autres. On n'a pas non plus agi chacun contre. Mais par contre, c'est vrai que collectivement, il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient pu être faites, etc. Ou des choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites. Et de ce fait, je pense que la responsabilité, elle se transmet et on la porte ailleurs que sur nous, effectivement.
Moi, je pense que Michel Onfray, par exemple, même s'il est très décrié aujourd'hui, peut-être pour d'autres choses, j'en sais rien, c'est médiatique à mon avis tout ça, mais il a raison sur le fait que si on en est là aujourd'hui, il y a une responsabilité politique, il y a des gens qui ont pris des décisions, qui en prennent encore aujourd'hui, et il y a des personnalités médiatiques aussi qui jouent largement le jeu de tout ça, et on arrive à une situation où ces responsabilités ne sont pas assumées. Et alors nous, on pourrait prendre la responsabilité en tant que citoyen, puisque le bulletin de vote, c'est nous qui le mettons dans l'urne, certes, mais il y a des responsabilités aussi politiques qui ne sont pas du tout questionnées. Je ne comprends pas ça. Alors est-ce que c'est une question culturelle aussi ?
Mais après, moi, la question que je me pose, c'est une fois la responsabilité assumée, qu'en faire de la responsabilité ? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on doit accueillir plus de migrants ? Est-ce que ça veut dire que finalement, eh bien, il faut faire qu'on fasse une intervention ou autre, quelque chose pour réparer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un débat qui est ouvert, mais actuellement, la plus grande question, à mon avis, en Europe, c'est quelle répartition faire des migrants et quel accueil réserver aux migrants. Et surtout, comment accueillir ces migrants et comment les qualifier, ces migrants, aujourd'hui.
Pour moi, ça revient au patch. Parce que finalement, on va répondre à une question qui s'impose, alors qu'on ne va pas tenter de répondre à la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces gens vivent heureux chez eux.
Tout à fait.
Alors qu'on leur a enlevé ce bonheur-là.
Tout à fait. Mais est-ce qu'on est les seuls responsables de...
Non, voilà. Bien sûr que non. Bien mais sûr. Pourquoi est-ce pas qu'on peut la faire France, quelque la grande chose France, avec ses valeurs, idées universalistes et ses valeurs, pourrait peut-être porter un vrai débat politique et démocratique sur comment rendre la dignité à ces gens-là, qui on a enlevé...
On a essayé de le faire, je pense, au temps de la colonisation, par exemple, d'aller exporter des valeurs démocratiques, etc. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne suis pas sûre. Il y en a d'autres qui ont essayé aussi d'exporter des démocraties. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne suis pas sûre.
Je pense que c'est la pire des choses. Mais leur laisser la possibilité d'avoir le parcours que nous, on a eu de recherche d'une démocratie, entre guillemets, peut-être est là la grandeur. Je ne sais pas. Mais ce débat est passionnant. Mais,
oui, tout
mais
à fait.
Peut-être qu'on pourrait éviter d'être dans... un européanocentrisme, se dire on va leur inculquer la bonne
tout
parole. Et non, juste laisser ces gens dans une culture différente, développer un mode politique différent aussi, peut-être.
Tout à fait.
D'autres questions? On termine sur ces bonnes paroles. Et ben on va s'arrêter sur ces mots sympathiques et ces questions ouvertes pour le Focus Actu. Et on va continuer un petit peu la diversité avec un titre choisi par Lauriane, qui est un titre hongrois. Donc c'est Schall de Lajos Félix.
Alors c'est Sam.
Sam de Lajos Félix. Je n'ai pas appris le hongrois.
Parce que j'ai été... J'ai choisi. Azt gondolom a legények meg akar verni. Ne bántsatok jó pajtások, nem vagyok az oka. Szeretek egy barna kislányt, nem hagyom el. Barna kislány ablakába jött estét. Szállást kéri jöttem hozzá a beeresztenél.
Mindenféle csavarkúnak szállást nem adhatom. Kicsikun az édesanyám, csak egyedül. A szív szabadét mégis felkellett. Csipkész élő nyújtójámra téged lefektetlek. Gombos szélű paplanommal téged betakarlak. Két karommal átölellek.
És reggelik csak. Kislányos szójáját magasan tette.
Márta legény a kalapját rajta felejtette.
Hozz édes kis angyalom, hadd rakjam a fejembe, hogy ne süsson a napsugán a ragyogó szemed. Szabadkai zöld erdőbe kimentem sétál. Hallottam a kakuk madárt hármat kiáltan.
Szólj még egyet kakuk madára, tört itt nem bánom. Szeretem a kis angyalom.
El kell tőle válni.
La 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 la
18h24, vous venez donc d'écouter le titre choisi par Lauriane, qui s'intitulait comment, dis-le comme il faut. Somme, de qui alors de...
Lajko Félix.
Dit beaucoup mieux que moi, donc je la laisse le faire. Hein. Le hongrois, c'est pas mon truc. Vous êtes toujours sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc, et on va passer à la Société en Marche.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Alors, de quoi tu nous parles ce soir ?
Alors, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler le revenu universel.
Alors évidemment, décidément, on continue. Après la Hongrie, on va passer à la Finlande, puisque j'imagine que c'est un sujet qui a fait débat récemment avec les questions finlandaises.
Oui, pas seulement en Finlande, mais c'est vrai que très récemment, on a entendu parler en Finlande. C'est une solution qui a été trouvée pour lutter contre le chômage et éradiquer la pauvreté. Je cite le Premier ministre finlandais qui l'a cité comme tel. Donc j'utilise le terme générique de revenu universel, peut-être à tort, pour renvoyer à plusieurs projets ou initiatives qui visent à attribuer à un citoyen, ou à chaque citoyen, un revenu minimum inconditionnel qui lui permet de vivre modestement, indépendamment de toute activité salariée. Parmi tous ces projets, on entend souvent parler de revenus de base, de salaire à vie, d'allocation universelle et d'autres choses. Et contrairement aux idées reçues, tous ces projets ne correspondent pas à des idées soit altermondialistes, soit d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en 2011, Dominique de Villepin avait proposé l'idée en vue de la campagne présidentielle de 2012. Et d'ailleurs, en Finlande, le Premier ministre qui l'a proposé en premier est étiqueté centre-droit.
Alors du coup, il y aurait plusieurs types de choses qu'on pourrait mettre sous revenu universel ou pas forcément exactement sous ce terme-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différences ?
Oui, en fait, il y a tout un tas de projets, donc il y a des choses qui sont plus ou moins loufoques et il y a des choses qui sont très sérieuses. Notamment, on oppose souvent le salaire à vie de Bernard Friot et le revenu de base. Le revenu de base, il a été défendu depuis assez longtemps maintenant par des universitaires, mais aussi des hommes d'affaires, des salariés, des syndicalistes et des formations politiques qui sont de droite comme de gauche. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été défendu sous tout un tas de formes par des courants très très différents. Les partisans du revenu de base, ils estiment que le revenu de base est un droit à jouir du patrimoine commun de toute l'humanité. Cette humanité qui ne se réduirait pas à celle qui existe maintenant et sur l'espace qu'on occupe, mais qui s'étend à l'humanité depuis le départ. Et ça constituerait un patrimoine commun, un patrimoine ou un capital humain commun qui n'appartient à personne et qui ne pourrait être réparti que de manière strictement égalitaire. L'approche de Bernard Friot, elle est un petit peu différente, elle est beaucoup plus pragmatique, elle part du constat qu'avec l'automatisation des outils de production, il n'y a plus d'emploi pour tout le monde. Il en résulte une espèce de compétition à l'emploi qui permet aux détenteurs du capital d'avoir une énorme supériorité sur les salariés. Et donc, du coup, de leur imposer des conditions de travail de plus en plus drastiques, notamment en termes de productivité. Bernard Friot estime aussi que de nombreuses tâches, comme les tâches domestiques ou les tâches bénévoles, correspondent à un effort de travail, mais ne sont pas valorisées. Et pourtant, même indirectement, elles participent à la création de valeur dans un État. Il estime donc que n'importe quelle personne majeure devrait recevoir un salaire qui varierait selon sa qualification et son expérience, 2500 à 6000 euros.
Alors du coup, que ce soit revenu universel, revenu de base, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une telle réforme ?
Alors, le revenu de base, il prône donc l'émancipation de l'individu face au travail. Selon ses promoteurs, il ne serait pas lié à la majorité des citoyens, à l'âge des citoyens. Il serait versé également aux mineurs. Il serait versé par l'État et serait cumulable avec toute autre activité salariée qui viendrait le compléter ou même tout autre revenu, y compris les revenus d'investissement, les revenus du capital, etc.
Il y aurait même l'argent de poche pour les mineurs.
Oui, l'argent de poche, oui, sûrement. Par contre, pour Bernard Friot, il n'existerait pas d'autres formes de rémunération possibles. la propriété lucrative, telle qu'elle existe aujourd'hui, serait abolie. Elle serait remplacée par la propriété d'usage. Donc aujourd'hui, on détient les moyens de production. Et dans la propriété, on détient par le capital les moyens de production. Dans la propriété d'usage, ce serait chacun qui serait propriétaire de son outil de production. On ne pourrait tirer aucun revenu de la propriété, seulement du travail. Pour autant, Bernard Friot, étonnamment d'ailleurs, ne prône pas la nationalisation des outils de production, mais plutôt la collectivisation. Il va valoriser l'entreprise sous forme coopérative, qui permet de lutter contre la subordination entre patron et employé, mais qui est quand même quelque chose dans lequel chacun trouve son compte. Le salaire à vie, il serait financé intégralement par la cotisation sociale. Dans un autre sens, le mouvement français, cette fois pour le revenu de base, il propose plusieurs approches de financement qui passent notamment, par exemple, par la fusion de tous les systèmes d'aide sociale. C'est le cas, par exemple, en Finlande.
Donc s'il y a un seul point commun, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais le point commun le plus marquant entre les différents types d'idéologies, c'est quand même de refondre le code du travail, enfin, le droit du travail et le fonctionnement du travail.
Même ce qu'on appelle le travail, parce qu'aujourd'hui, on va valoriser, y compris d'ailleurs dans la dynamique du revenu de base, le travail domestique ou le travail bénévole. Ça permettrait à chacun de choisir son activité. Est-ce qu'on veut avoir une activité utile à la création de richesse et à l'outil économique, ou alors un travail utile dans un autre sens? Le travail bénévole, c'est un très bon exemple. Et donc, avec un revenu de base ou un salaire à vie, on peut décider d'orienter son activité vers simplement du travail bénévole.
Et est-ce que ça, c'est possible à mettre en place ?
Ah bah c'est une grande question. L'avantage, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de compétition à l'emploi, donc forcément moins de pouvoir des employeurs sur les employés. Après, on pourrait dire que, par exemple, du coup, les travaux qui sont pas intéressants, les travaux, je sais pas, balayeurs, par exemple, ils seraient complètement délaissés, ce qui est pas forcément vrai, puisqu'on pourrait, par exemple, certains proposent de mettre en place des revenus incitatifs. Mais effectivement, il y a beaucoup de détracteurs. Il y a beaucoup de gens à qui ils donnent des douleurs de poitrine. On lui reproche notamment la difficulté de son financement. Il coûterait trop cher. On lui reproche de décourager le travail, d'encourager à l'assistanat. Les expériences qui ont déjà été produites ont plutôt démontré l'inverse, que ça décourage pas du tout le travail. Pour certains, il serait même immoral, car il serait versé à des personnes qui n'en ont pas besoin. Pour d'autres, il serait injuste, car il laisserait seulement à certains la tâche de travailler et de générer de la richesse. Et puis, on peut imaginer assez facilement qu'il générerait de l'inflation.
Alors, ça fait beaucoup d'arguments par les détracteurs, mais que tu as commencé déjà à démonter un petit peu dans tes réponses. Disons que finalement, les expériences prouvent que tous ces contre-arguments ne sont pas valables. Pour autant, est-ce que tu penses que c'est réaliste de mettre en place actuellement un revenu de base ou un revenu universel dans le système tel qu'il est construit ?
Alors personnellement, j'ai un petit peu du mal à me faire une idée. Je pense que je manque un peu de recul et d'abstraction pour me faire vraiment une idée de ce que ça représenterait. Ce qu'on sait pourtant, c'est que les expériences menées sont plutôt généralement concluantes. La première chose que je me suis dit, c'est que parler d'inconditionnel à un juriste, c'est très très surprenant, parce qu'un juriste, il peut pas imaginer quelque chose de complètement inconditionnel. Déjà, le salaire à vie de Bernard Friot, il ne serait versé qu'aux personnes majeures. Mais en France, par exemple, comment on ferait pour mettre un revenu universel ? Est-ce qu'il serait conditionné, et donc pas inconditionné, à la qualité de citoyen français ? Si on essaye de mettre ça sur les citoyens français aujourd'hui, c'est complètement incompatible avec le système social tel qu'il fonctionne aujourd'hui, puisque le système social aujourd'hui, il est généré par le travail. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Je trouve que les perspectives sont vraiment très intéressantes et c'est des pistes qui, à mon sens, sont des pistes d'avenir, parce que le constat qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il est vrai. Le constat qu'il y a de plus en plus besoin d'action sociale, il est vrai. Et il me semble que c'est quelque chose qui pallie beaucoup d'incertitudes sur l'avenir tout de suite. Mais je pense que c'est vraiment une énorme réflexion à mettre en place.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir ouvert le débat. Et puis, ça, on peut lancer un autre débat pendant qu'on va écouter Bouquet de nerfs de Noir Désir que tu as choisi. Est-ce qu'on accorderait le revenu universel aux immigrés ?
Journée de la pleine lune, au sommet de la dune, à caresser de loin ton chien. T'oublies, ornotte, t'oublies les ombres d'opaline. Au rendez-vous suivant, j'attends. Au fond d'une autre limousine. Il ne vaut pas plus cher que ce bouquet de nerfs. À frôler la calanche, les étendues salines, à perte de vue, on s'imagine en Chine. Trompe la mort et tais-toi. Trois petits tours et puis s'en va. J'opère tes amygdales labyrinthiques. Que dalle, ne m'est plus rien égal. Je sais, je n'ai offert que des bouquets de nerfs.
Vous êtes toujours sur Radio Campus au 93.3 pour l'émission Quoi de Neuf Doc. Vous venez d'écouter Bouquet de Nerfs de Noir Désir, même si elle n'était pas en intégralité, mais n'hésitez pas à l'écouter de manière complète, ça fera plaisir à Alice. Il est maintenant l'heure de laisser mon micro à Arthur pour l'interview du jour.
Huit minutes avec...
Bonjour à tous, donc effectivement nous accueillons aujourd'hui Clément Matona, vous le connaissez déjà un petit peu, il nous a fait une chronique, enfin une intervention dans le Focus Actu il y a un mois sur les crises financières, alors on va reparler un petit peu d'économie aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas trop radoter. Donc Clément, bienvenue, je vais te laisser un petit peu, comme c'est la coutume, nous raconter ton parcours, qu'est-ce qui t'a conduit un petit peu en thèse à étudier tous ces phénomènes économiques, notamment de crises financières.
D'accord, ben bonsoir à toutes et à tous. Pour résumer très brièvement ce parcours, en gros, moi, je suis natif de Clermont-Ferrand. J'ai fait une grosse partie de mes études à Clermont. J'ai passé un tout petit bout de temps à Lyon, à l'ENS. Et après, je suis revenu faire mon master recherche à Clermont en économie du développement, qui m'a amené ensuite à faire une thèse au Centre d'études et de recherche sur le développement international, le CERDI. Pourquoi j'ai choisi très rapidement l'économie, par exemple, et la recherche économique, c'est simplement que depuis que j'ai 19-20 ans, j'ai vraiment réalisé que l'économie était une discipline carrefour, vraiment une discipline qui est vraiment au carrefour de plein d'autres disciplines pour pouvoir être pleinement comprise et cerner les tenants et aboutissants des phénomènes économiques, et comme étant de nature plutôt curieuse, ça m'a permis à la fois de faire de l'histoire, de faire des maths, de faire de la sociologie, de l'anthropologie, bref, plein de thèmes que j'ai pu du coup remobiliser dans mon sujet de thèse, en l'occurrence, qui est donc le rôle du développement financier dans la structure des crises financières. Et pour l'anecdote, c'était pas mon premier choix en matière de sujet de thèse. À la base, je voulais faire vraiment de l'économie politique et étudier l'effet de différentes formes de démocratie sur l'instabilité macroéconomique des pays. Mais j'avais présenté un deuxième projet de thèse, qui est celui que je viens de vous citer à l'instant, et qui a été retenu en l'occurrence. Voilà.
D'accord, donc très bien. Voilà un petit peu le parcours de Clément. Alors, pour essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ton sujet de thèse, Donc tu nous as dit que tu t'occupais du lien entre les développements financiers et les structures notamment politiques des institutions dans différents pays et leur rôle dans... Alors il va me corriger si je dis des bêtises, et leur rôle dans l'arrivée de crises financières, dans leur durée, etc.
D'accord. Juste une toute petite rectification. On va dire que non. J'ai un article. Okay, on va dire.
Au moins, c'est clair.
Voilà. Non. Mais en gros, effectivement, il n'y a pas nécessairement la dimension politique dans mon sujet thèse. J'ai eu travaillé sur d'autres articles qui étaient en rapport avec l'économie politique et et l'instabilité macroéconomique. Mais ce sont des articles vraiment connexes qui ne rentrent pas directement dans ma thèse. Non, c'est pas grave. Et en l'occurrence, oui, dans le cadre de la thèse, donc j'étudie spécifiquement le rôle du développement financier. Le développement en fait du système bancaire par exemple ou des marchés financiers sur la structure des crises financières. Et qu'est-ce que j'entends par structure? C'est simplement l'effet donc du développement financier sur la fréquence, sur la durée, le coût et la contagion des crises financières, et tout particulièrement les crises bancaires. Voilà.
D'accord. Donc du coup, alors restons sur l'effet de ce développement financier et ses conséquences sur les différentes crises. Donc tu fais un peu un état des lieux des différents développements financiers et de leur influence, mais est-ce que le but, c'est pas quand même d'arriver à endiguer certaines crises, à essayer de les prévoir et de mieux les prévoir et d'en diminuer le nombre? Donc, plutôt que cet état des lieux, est-ce que tu as des idées d'action après à partir de cette situation-là pour essayer de changer un peu les choses au niveau économique sur ces crises-là?
D'accord. Donc, oui, il faut savoir que l'objectif de ma thèse en tant que telle n'est pas vraiment normatif, dans le sens où l'objectif, c'est avant tout quelque chose, une thèse à dimension positive, c'est de décrire ce qui est, décrire de la nature de la relation entre le développement financier et les crises financières. Paradoxalement, il y a une immense littérature sur le développement financier, une immense littérature sur les crises financières, mais très peu, en fait, de papiers ont pour l'instant fait le lien entre les deux éléments. Donc le but, d'abord, c'est vraiment d'investiguer en fait, cette relation, de comprendre quel est l'effet du développement financier sur toutes les dimensions des crises financières que je vous ai évoquées précédemment. Et à partir de cette compréhension, et donc de l'identification des composantes du système financier qui peut être à l'origine d'une plus grande fréquence, d'une plus grande durée, agir sur ces composantes-là. Donc effectivement, même si le travail est descriptif, de façon sous-jacente, il y a forcément des implications politiques économiques. Après, du point de vue de mes idées ou ma vision sur la modification du système et qu'est-ce qui pourrait être fait pour réduire l'instabilité économique, il faut savoir en gros qu'actuellement on vit dans un système qui se caractérise par la prégnance d'une certaine idéologie, on parlait d'idéologie tout à l'heure, qui est celle de l'idéologie néolibérale, tant en termes de grille d'analyse que de manière d'agir sur le système économique. Système néolibéral, tout simplement, en gros, on accorde la prégnance à l'économie sur le politique et on part du postulat que le système économique est doté d'une capacité auto-organisatrice, une capacité de se réguler par elle-même et donc qui ne nécessite pas l'intervention du politique dans sa propre sphère. Donc ça, cette idéologie a maintenant des racines très très profondes en matière institutionnelle. Ça s'est traduit depuis une trentaine d'années par la mise en place de politiques de libéralisation financière, de marché du travail, marché des biens et des services, qui se sont traduits bien sûr par de nombreux effets négatifs, comme l'augmentation des inégalités, l'augmentation de la fragilité, de l'instabilité des économies, ou encore l'affaiblissement du pouvoir discrétionnaire, du pouvoir d'action des États. Et de façon globale, en dépit de ces effets négatifs que la crise des subprimes a révélé au grand jour et a permis de pointer certaines défaillances, malheureusement, ce système-là est encore énormément ancré tant dans les idées que d'un point de vue institutionnel. Et il sera très compliqué vraiment à remettre en cause. Mais je pense, et je reste fondamentalement optimiste, qu'on vit une situation très intéressante du point de vue de notre incitation à mettre en place de nouveaux systèmes, dans le sens où actuellement, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vit la concomitance d'une multiplicité de crises auxquelles on n'avait jamais eu affaire, enfin, simultanément en tout cas. Crise sociale, crise politique, crise environnementale, crise financière, etc., etc. Et je pense qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience de la part des citoyens et des individus, comme de certains politiques, à vouloir remettre en cause ce paradigme-là, vers un paradigme de plus plus soutenable, plus durable, qui remettra en cause les notions de rendement à court terme, l'ultra-vitesse, l'ultra-performance, et au profit, par exemple, de nouvelles formes d'organisation des entreprises, comme a parlé très rapidement Alice tout à l'heure, ou de nouvelles manières de concevoir la rémunération, le salaire, etc., etc. Bref, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais voilà.
D'accord, très bien. Bah, je vois qu'on a un beau descriptif de la situation, donc pour ce qui est des potentiels changements et des nouveaux systèmes possibles. On a eu des tout petites pistes sur la fin, mais on ne va pas trop se mouiller sur le sujet aujourd'hui. Je vois ça, donc c'est déjà la fin, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un vaste sujet pour pouvoir discuter effectivement de nouveaux systèmes économiques, pourquoi pas à mettre en place et qui commencent à arriver et à fourmiller dans notre pays. Donc pour finir, on va présenter la musique que Clément a choisi pour vous. Alors, je vais le laisser le présenter. Après, les Hongrois, les Finlandais, je crois qu'on a un groupe de Norvégiens. Je laisse les derniers mots pour Clément.
Très bon groupe de rock qui s'appelle Kvelertak et la chanson sera Job.
Vous êtes toujours sur les ondes du 93.3, vous venez d'écouter Mjød de Kvelertak. Moi aussi j'ai du mal avec la prononciation norvégienne. Et puisque les doctorants n'ont pas peur du paradoxe, après un titre qui n'a pu que vous réveiller, voici Nicolas et fait de beaux rêves doc.
I am happy to join with you today. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream.
Fait de beaux rêves doc.
Bonsoir oui. Nicolas.
C'est parti. C'est parti pour la chronique sur l'utopie. J'en ai parlé un petit peu pendant 8 minutes la semaine dernière. Non, il y a un mois maintenant. Ça passe trop vite. Le temps passe trop vite. On a défini l'utopie rapidement avec tout le monde. On a parlé d'un genre littéraire, on a parlé d'un système politique, mais on a surtout parlé avec Xavier Badan, qui était là à la place de Clément Matona il y a un mois, de l'étoile du Nord, c'est-à-dire l'utopie comme un moteur, quelque chose qu'on poursuit, une quête. Alors, on vient d'écouter Clément qui nous a parlé d'économie et de qu'est-ce qu'on peut faire des crises économiques qui se multiplient et des crises culturelles, des crises identitaires, de toutes ces crises qui se multiplient, qui sont derrière une idéologie que tu as très bien citée, une idéologie néolibérale. Et bien justement, moi, je vais vous parler d'une utopie qui a été portée par quelqu'un au XVIIIe siècle, donc c'est pas récent ces questions-là, qui se posait en contre une idéologie capitaliste qui émergeait au XVIIIe siècle. Et ce monsieur qui a largement exploité ses compétences et ses capacités à réfléchir à d'autres modèles, c'est Jean-Baptiste Gaudin. Alors Jean-Baptiste Gaudin, très clairement, lui, il est parti du principe qu'il y avait eu une réflexion proposée par Charles Fourier quelques dizaines d'années avant, proposant un système économique, social et architectural complètement différent de celui qui était proposé jusqu'à là. Alors Charles Fourier, pour vous faire les choses de manière très brève, il y a un élément qu'on peut retrouver chez lui, c'est ce qu'il a appelé les séries passionnées. Les séries passionnées, c'est quoi ? Il partait du principe que l'industrialisation prenant de plus en plus de place dans le monde capitaliste du XVIIIe siècle, et que pour lutter contre cette industrialisation et cette aliénation au travail, il proposait un système dans lequel des groupes d'amis pouvaient spontanément se réunir autour de séries de 30, 40 ou 50 activités différentes et des individus qui pouvaient aménager leurs séances de travail de manière très courte et segmentée pour faciliter ce qu'il appelait le papillonnage, c'est-à-dire le droit à la sieste, on va dire ça comme ça, la révolution par la sieste. Et ces séries passionnées, elles étaient décidées collectivement dans ce qu'on appelait les bourses d'harmonie, c'est-à-dire que tout le monde se retrouvait autour d'une délibération collective pour décider ce qu'on allait faire demain, tous ensemble, de manière segmentée, séparée, en séries passionnées. Alors, de cette pensée fourriériste, qui n'a jamais été mise en place au moment où Charles Fourier l'a développée, puisque c'est resté ce qu'on appelait une utopie socialiste, il y a deux courants qui se sont développés. Un courant orthodoxe qui a été mené par Victor Considérant, qui s'attachait à développer des journaux, des revues parlant de l'idéologie fourriériste. Et on a eu un courant qu'on a appelé un courant réalisateur, dont l'idée était de tenter de fonder des colonies collectives basées sur le travail de Charles Fourier et ses séries passionnées et ce développement social. Alors, je vous parle de Charles Fourier comme inspirateur de Jean-Baptiste Gaudin, qui, lui, naît dans une famille de serruriers, de petits ouvriers et artisans. Il grandit dans cette famille, voit ce capitalisme effréné, ce paupérisme du XVIIIe siècle faire des ravages dans la population française et du coup décide de prendre cette idéologie fourriériste et d'en faire quelque chose dans l'industrie, sa propre industrie, ce qu'on appelle toujours les poêles Gaudin, à Guise, à côté d'Amiens, dans le nord de la France, en Picardie. Et il décide d'adapter le système fourriériste de ses séries passionnées à l'industrie qu'il a développée à Guise, des poêles Gaudin. Et là, à ce moment-là, lui, il décide de faire deux choses. Il décide de créer un lieu dans lequel on va développer 330 logements qui accueilleront 1770 habitants, dans un lieu collectif, dans lequel une idéologie hygiéniste va se développer, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens vivent bien dans un lieu où les choses sont saines, les lieux sont sains, les cuisines sont saines, tout est sain pour bien vivre, mais aussi bien y travailler dans ces séries passionnées qui sont décidées tous les soirs au cœur du familistère de Guise pour savoir ce qu'on va y faire demain, comment on va le faire et comment on va le faire tous ensemble. Cette économie sociale naissante va partir du principe que si l'industrialisation est aliénante, c'est parce que le capital est aliénant. C'est que la détention du capital permet d'aliéner le travailleur. Et Jean-Baptiste Gaudin, il va s'efforcer toute sa vie de tenter de se déposséder lui-même progressivement pour pouvoir donner le pouvoir du capital aux ouvriers qui travaillent au sein du familistère de Guise. Et c'est ce qu'il va faire pendant des années. Bien sûr, le familistère de Guise, ça va durer à peu près 100 ans. Jean-Baptiste Gaudin va y travailler en tant que penseur 8, 10 années, parce que malheureusement, la mort frappera, et comme un bon utopiste, il a été certainement rongé par l'envie d'un autre monde, et il disparaît assez vite, mais le Familistère de Guise, qui est toujours debout, que vous pouvez toujours aller visiter, fonctionnera pendant presque 100 ans. Il y a 5 administrateurs qui se succéderont pour tenter de faire perdurer cette utopie d'un autre modèle collectif de travail. Malgré l'échec de l'utopie familistérienne, parce qu'au bout de 100 ans, en 1968, tout s'arrête, ce que nous a appris Jean-Baptiste Godin, et ce qui est selon moi, pour moi en tout cas, complètement essentiel, c'est qu'il est nécessaire de lier une pensée profonde, celle de Charles Fourier par exemple, une pensée altermondialiste, si on revenait à la question aujourd'hui de l'économie, à une action, une praxéologie, se mettre en action, ne pas rester derrière son bureau à penser, mais être capable d'agir pour pouvoir proposer une utopie en marche. Et pour ceux qui rêvent encore d'utopie et d'autres mondes, je vous invite à aller voir ce qu'a écrit Jean-Baptiste Godin, ce qu'a écrit Fourier, et vous trouverez sur le site de Doctovergne une chronique qui reparle de tout ça et qui développe des éléments bibliographiques et de webographie pour comprendre un peu mieux Jean-Baptiste Godin et l'utopie.
Oui, simplement une petite intervention. Je trouve qu'il y a une phrase de Bergson qui résumerait très très bien la vie et l'œuvre de Godin. Ça serait dans ce cas-là, en gros, penser en homme d'action et agir en homme de pensée.
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on s'entend bien avec Clément, c'est parce qu'on voit les choses de la même manière et Bergson a tout à fait raison quand il dit ça, puisque c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste Godin pendant des années et que j'espère d'autres feront, d'autres qui nous écoutent. Et je pense que l'utopie, elle passe par là.
Et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu nous parles de Bergson ou de qui la prochaine fois ? Tu as choisi ?
La prochaine fois, je n'en sais absolument rien parce que je laisserai peut-être les gens réagir sur le site et à la chronique pour proposer peut-être un utopiste que je ne connais pas et que je découvrirai avec eux.
D'accord, donc n'hésitez pas à commenter la chronique de Nicolas et en attendant, on écoute Imagine de John Lennon.
Yeah.
Vous venez d'écouter Imagine de John Lennon et c'est sur cette belle chanson et en douceur que nous allons nous quitter ce soir. En attendant de nous retrouver le 4 novembre prochain, vous pouvez écouter les podcasts de l'émission sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctovergne www.doctovergne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. Si vous souhaitez nous contacter pour venir présenter vos travaux de recherche, vos projets ou simplement nous proposer des thématiques à aborder, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez aussi nous rencontrer, à partir du 4 novembre prochain, il y a la mise en place de Doctovert par l'association Doctovergne au Delirium à 19h30 qui vous permet de rencontrer des doctorants et aussi les gens qui sont à la radio. Alors je vous dis à très vite, on se retrouve le premier mercredi du mois et le troisième mercredi de chaque mois également. Bonne soirée.
Seen the system, and Lord knows that ain't common for men of color. So they say, gotta check, yeah, see me flip it in the booth, yeah, we okay. Pop told me, keep a G, yeah, and in time it'll be your day. Come with me, let's go high.